mais avec une grosse focalisation sur les oiseaux. Et donc, voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, à part que ce sont tous des textes écrits dehors et ensuite retravaillés, hein, et même très longuement retravaillés parfois. Et donc, ce qui est bien quand on écrit dehors, c'est qu'il y a une spontanéité. Enfin, moi, je n'ai pas d'imagination, donc j'ai besoin d'avoir un contact immédiat avec le réel et de me rapprocher le plus possible de ce dont je parle. Et donc, voilà. Donc vous verrez, enfin on pourra en parler peut-être un tout petit peu après. Donc le premier texte que je vais lire est un texte que j'ai écrit à Terre-Neuve. Donc je vais parler d'animaux mais aussi de paysages. Donc c'est un texte sur le paysage de Terre-Neuve. Et donc c'est là en l'occurrence, bon Terre-Neuve, je ne vais pas en parler parce qu'on serait encore là demain. Donc, mais bon c'est un des plus beaux endroits du monde pour moi quoi. Et... on m'avait déposé, comme ça arrive souvent, au milieu de nulle part. Là, il ne devait pas y avoir un être humain à 40 km à la ronde ou 60 km. Et donc, la nuit tombe, c'est sur une route immense qui va à l'infini. Et à la fin du texte, vous verrez, il y a une sorte de passage très bizarre que je n'ai pas inventé. Il faisait nuit noire. Et j'ai une sorte d'extase, j'ai eu l'impression que le talus qui était devant moi s'éclairait. C'est fou, hein? Non, c'était mystérieux, quoi. Enfin, donc on ne va pas tomber dans des métaphores bibliques. Hein. Donc, voilà. Alors, je voulais, avant de le lire, je dis trois choses, parce que pour vous qui ne sont pas des naturalistes fanatiques, d'abord, je parle d'une plante qui s'appelle la saracénie. La saracénie, ça va le son, là ? C'est une plante carnivore assez grosse, très belle, qui vit dans les tourbières et qui a des feuilles en forme d'amphore ou de pichet. En anglais, on l'appelle la plante pichet. Et elle a une grosse fleur, c'est une belle plante, qui ressemble à une églantine rouge, un peu, avec des pétales qui seraient en cuir, qui ont la consistance du cuir. Et après, je parle de l'orignal. Alors, tous ceux qui connaissent un peu le Québec savent que l'orignal, c'est l'élan. Et je termine par le chevalier à pattes jaunes, qui n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, qui est un oiseau. Un petit échassier qui a les pattes jaunes. Donc, c'est juste pour... parce que comme mes textes sont bizarres, on peut penser que je m'ai déliré à un moment, mais si vous voulez, c'est vraiment des choses qui existent. Donc, voilà. Au crépuscule, la fleur de saracénie acquiert une transparence de rose carnivore sur les tourbières. Les couleurs ternes que lui prêtaient les reflets écrasés du jour sortent en ultime gouttelette, en point de lumière sous la pâleur du ciel, prête à verser dans le noir. Les marais déclinent en teneur sombre. Bientôt, les mouvements de la route se feront incertains, sarclés par une latéralité des angles et des reflets, par les ombres et les contours qui n'existent qu'alors. Entre la loi solaire et celle de la méduse noire qui règle les contrastes, la vue s'interroge sur elle-même et laisse place aux accidents de voiture, seul dévoreur de cette heure d'entre chien et loup. Il y a des surprises particulières aux routes de Terre-Neuve, tracées de terrain de basket en demi-cercle, oblitérant les virages, gravelots et gélinottes courant sur la voie, vision d'hermine, de vison, de campagnole sur les horizons surbaissés de la péninsule d'Avalon. Risque de la forêt mouvante d'un orignal qui, fauché sur ses grandes pattes, s'écrasera sur le capot et tuera le chauffeur. L'absence de marquage unit l'asphalte avec les plans d'un paysage d'ardoise et de sable noir. L'avènement d'une zone d'encre au reflet de tarmac propose au sommeil naissant l'envers des directions. Le ciel se plie sur la tourbière par la charnière lointaine des montagnes. Le balayage du vent recoue la réalité de sa rumeur d'orgue dans les fils téléphoniques survolant la route. Parfois, j'ai l'impression qu'une lueur se profile en avant de moi et que m'approche, loin derrière, le désir d'une voiture. Ce n'est sur le talus qu'un éclat détaché de l'intériorité de ma vue est venu mordre le gravier comme les trois clartés inquiètes jetées par le chevalier à pattes jaunes dans la nuit. Maintenant, je vais lire deux petits textes courts sur le Harfang des neiges. Alors, donc, ce sont des textes écrits à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas si bon, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le Harfang des neiges, j'imagine. Et donc, curieusement, les enfants le savent mieux que les adultes la plupart du temps, parce que c'est la chouette de Harry Potter, hein, qui s'appelle Edwige. Et donc, je vais vous le montrer. Parce que quand même, il faut que vous puissiez visualiser cet oiseau qui est un des plus beaux oiseaux du monde et qui est donc la chouette de l'Arctique, hein, et qui est une très grosse bête. Hein. Les loups en ont peur, hein, à juste titre. Et donc, le Harfang des neiges, moi je l'ai observé. Bon, j'ai travaillé sur ce livre avec Grégory Paul, qui est un photographe qui était venu à la première édition, à la seconde, je crois, du festival Nature Nomade. Mais j'ai toujours eu un avantage sur lui, c'est que lui, pour prendre ses photos, c'est d'abord un livre de photos, celui-là, il fallait qu'il ait quand même un minimum de visibilité, tandis que moi, je pouvais vraiment écrire dans le blizzard. Donc, si vous voulez, si je voyais rien, c'est pas grave, je finissais par buter sur l'oiseau, en fait. Qui lui s'abritait également. Donc, c'est une sorte de. Je le trouvais un peu par intuition, quoi. Et donc, alors voilà, le Harfang des neiges, et voilà son visage, hein, ce qu'on appelle le disque facial. Hein. Et donc, il a les yeux jaunes, d'un jaune d'or, parce que c'est un animal qui chasse aussi bien de jour que de nuit. Étant donné que c'est un animal polaire, donc il y a la nuit polaire et il y a l'été où le jour ne se couche jamais vraiment. Donc je vais lire le premier texte, c'est juste une sorte d'introduction, et puis le deuxième, c'est écrit vraiment dans une tempête de neige. Je vais les enchaîner. Ah ouais, je vois mieux sans lunettes. Oui, franchement, j'avais un problème tout à l'heure. Donc, superposé, deux sphères blanches surprennent comme une levée de neige en ce pays du vent. Corps et tête, la seconde, plus petite, est piquée de deux points qui, même de loin, glissent comme un mystère sur la pâleur absolue du Harfang mâle. Ses yeux pivotent, radiographiant la baie et les rocs en blanc, brun et noir. Il tourne comme une clé de silence et de sauvagerie. J'entrouvre la portière de la voiture. L'arrière du corps se redresse. L'oiseau devient ove horizontale, ciel hérissé. Les ailes s'éploient et, d'un seul battement, la chouette du jour clair s'enlève, absence à silhouette immense, et chat d'aiguille marque les vagues du cap au basque à la pointe blanche, exalte l'ardoisée des eaux. Certains chasseurs abattent les harfangs et leur tranchent la tête dans un geste de rage contre la beauté. J'aime les chasseurs. Le vent m'empale par le cou et je vais secoué comme dans la carlingue d'un avion. Si je me retourne, une main de neige me pousse dans le dos et par les épaules. Les vagues s'écrasent contre les rochers comme des envols de la chouette blanche. Des reliquats de neige derrière les pierres semblent l'oiseau en train de s'abriter. Je le retrouve, aller vers la mer et m'assois, la longue vue plaquée contre le roc. Je dois mordre la feuille de papier pour chercher mon stylo. Il est là, allongé contre le blizzard et lui faisant face, affiné et comme sali dans sa blancheur par les traînes grises de l'air. Il est là, et j'arrive à peine à le fixer, me battant contre ce qui emporte tout, pour ne pas essaimer dans l'atmosphère. Il est là, frère de plume. Alors, je vais lire un autre texte sur les oiseaux, puis ensuite je quitterai les oiseaux, puisqu'on a un temps assez limité, donc il faut que je reste sobre. Et donc, je vais lire un texte sur le fou de Basson. Et donc, et en particulier sur le drame existentiel du fou de Basson, dont vous êtes certainement très conscient, qui est le fait que le fou de Basson meurt toujours jeune, relativement jeune. Et qui peut, alors que les oiseaux de mer sont en général les oiseaux qui vivent le plus longtemps. Beaucoup d'oiseaux de mer vivent jusqu'à 60 ans. Il y a la photo extrêmement célèbre d'un ornithologue américain qui tient un pétrel fulmar qu'il vient de baguer avant de le relâcher. Cet Américain a 20 ans et tient ce pétrel. Il le recapture 40 ans après, le même. On le reconnaît par la bague, bien sûr. Il se refait photographier. Le pétrel est identique, parce qu'il mue tous les ans, et l'homme a pris 40 ans. C'est terrible, donc, c'est une photo très connue. Et donc, par contre, le fou de Basson, vous allez voir, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que j'espère que le texte l'explique, lui n'a pas la chance de vivre extrêmement vieux, parce qu'il a un défaut de fabrication. Donc, et c'est aussi un texte que je m'en suis aperçu plus tard, tout à fait par hasard, c'est une coïncidence, mais on est tous nourris de culture, qui est une sorte de pastiche de l'albatros de Baudelaire. Mais ce n'était pas du tout voulu, pas du tout. Je voulais en faire un texte scientifique, en fait. Donc, rien n'est plus paradoxal que la mort prématurée du fou de Basson. Génialement adapté et prodigieusement raté, cet oiseau transporte tout au long de sa vie son paradoxe de ptérodactyle à plume. Grand plongeur, il est capable de s'enfoncer loin sous l'eau en harpon d'énergie, depuis la hauteur où il repère le poisson et le perce en espoir, avant de dégringoler sur lui, arme blanche. Immature, il piquait en oblique sur le premier repérage de la cible et la manquait par précipitation. Ses réserves fondaient en compte à rebours lorsqu'un jour, le hasard de la verticalité lui assura le succès de la prise et lui souffla les lois de la réfraction de l'eau. Adulte, il répéta cette chute orientée du zénith jusqu'au choc où convergent la violence et la précision. Les narines du fou s'ouvrent à l'intérieur du bec, lui évitant d'être étourdi par l'impact. Il respire en dedans, vie incurvée, bec à peine entrouvert, long poignard profilé sous la pâleur du larmier noir. Mais l'œil n'est pas aussi bien protégé. Malgré la cornée, il encaisse à chaque fois les coups d'un trottoir transparent. Ainsi, ces oiseaux deviennent-ils semi-aveugles avant l'heure. Leur vieillesse et leur mort sont fixées non par l'âge réel du corps, mais par une famine prématurée. Chacun a son talon d'Achille. Même les meilleures formules ont leurs lignes de fracture. Les poètes, à la manière des fous de Basson, sont lancés sur une traversée d'argent sous les reflets. Comme eux, ils finissent parfois carreaux d'arbalète usés par les impacts. Ils ont des visions de là-bas, de par-delà l'horizon, et sont, dans le même temps, rongés par leur préhistoire. Les mots germent en leur paysage intérieur, mais ils meurent les yeux grillés d'avoir trop vu. Donc maintenant, je vais revenir au paysage. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur l'île de Vancouver, hein, donc de l'autre côté de Terre-Neuve, donc sur la côte ouest du Canada. Et je n'ai pas grand-chose à dire de ce texte. Je veux dire, c'est un texte qui est écrit comme ça au fil de la plume, hein, vraiment comme ça, très spontanément, que j'ai d'ailleurs très peu repris ensuite. Et on parlait de Baudelaire, et en fait, s'il y avait une chose que j'ai faite complètement consciemment, c'est que j'ai pris une des techniques d'Edgar Poe pour faire ce texte, qui est une de mes grandes admirations. Mais évidemment, la thématique n'a rien à voir avec Edgar Poe, le résultat non plus, et puis le niveau du texte non plus, bien sûr. Et comme disait ma grand-mère, un cochon n'y retrouverait pas ses petits. Hein. Donc, je tiens beaucoup à... Enfin, si ça vous intéresse, je vous expliquerai la connexion à Edgar Poe, mais c'est un peu technique. Donc, c'est... Bon. C'est des tics. La tristesse est le luxe de ceux qui sont en vie, et c'est une pente que je ne peux m'empêcher d'éprouver. Elle m'est comme une clarté, une respiration, une fraîcheur tombée du ciel après la pluie. Elle encourage à la note et rapporte à un esprit d'aube et d'énergie désolée. Ce qui, alors, sous-tend la rareté de la parole, se situe au-delà des mots, comme un accord, une eau sonore, une marée qui se répand. Nous avons longé cet après-midi la côte ouest de l'île de Vancouver, entrevue sur des dizaines de kilomètres la chaîne des montagnes olympiques, derrière les sapins de Douglas, dont les rideaux de stalagmites noirs à l'aubier rouge de chair s'élevaient pour annuler le ciel et boire sa lumière. Nous sommes allés à China Beach y porter le bois flotté de nos pensées après nous être arrêtés à Point No Point, le point au-delà duquel il n'est plus de lieu, au-delà duquel le retour seul est envisageable, sauf à jouer le joker de la folie. Nous avons cherché sur les roches en miches de pin, séparées en leur temps par la boulange des glaciers, les pétroglyphes des Indiens de la côte, rainures gravées à la pierre, sur la pierre, autrefois relevé de blanc, travail de mystère mené au long des lunes sous le bleu noircissant et dans la tombée du brouillard. Ces traces de baleines soulevant les formes de l'horizon, il faut aujourd'hui les retrouver, les avoir perdues sous le remblai des lichens et l'écorchure opérée par la mer. C'est sous certaines lueurs que, d'un coup, le tracé se révèle. Ainsi, l'éveil d'un corps à la mémoire, le choc de la vipère apparu sur les feuilles, le retour de la vue à nos yeux désespérés. L'incidence du soleil nous a renvoyé révélatrice la tristesse de la lumière. Ce point de vue rasant qui fait ressortir les sutures de la réalité, restaure le miracle du tissu et sa fragilité. Alors bon, le festival Nature Nomade privilégie beaucoup le voyage. Et d'ailleurs, je profite de cette allusion au festival pour remercier Benoît, Faustine, Ingrid, Morgan et toutes les Blandine et toutes les autres personnes qui ont organisé tout cela. Hein. Et il y a aussi des voyages immobiles. Donc j'ai mon dernier livre en date concerne la Bretagne en fait, ce qui est extrêmement exotique en ce qui me concerne. Et donc même si j'habite en Bretagne, donc ce livre là, qui est un livre sur la nature en Bretagne, enfin les milieux naturels plus exactement en Bretagne, et qui est une sorte de livre que j'ai fait avec un immense photographe comme Grégory Paul, hein, qui s'appelle Emmanuel Berthier. Et que nous avons voulu comme étant à l'interface de la science, enfin de l'histoire naturelle, comme on disait au XVIIIe siècle, puisque c'est une science écrite et non pas une science mathématique, et du rêve, aussi bien dans la photo que dans le texte. Hein. Donc c'est assez libre comme écriture, mais tout ce qui est dit là est exact, bien entendu, comme tout ce que j'ai lu jusqu'à présent est exact dans la mesure où je l'ai vécu. Je n'ai jamais rien rajouté à ces textes. Hein, jamais rien. Parce que quand on rajoute, c'est plaqué, en fait. Hein. Donc, tout ce que j'écris est vécu. Hein. Donc, alors là, je vais lire un petit texte sur le chevreuil. Hein. Là, par contre, comme c'est écrit très petit, je vais reprendre mes lunettes. Hein. Ce qui introduit un suspense à couper au couteau. Donc, voilà. Ah non, franchement, elles sont nulles. Et donc, le chevreuil est pour moi l'animal de l'absence. C'est le plus gros mammifère des forêts à l'orée desquelles je vis, mais je ne le vois presque jamais. Parfois, en pleine course, un brocard traverse la route, dédaigneux de la voiture. Je freine car il est toujours suivi. Parfois, une chevrette apparaît comme une levée de vie au milieu d'un champ. Le plus souvent, il s'agit sur l'argile d'un paraffe de traces en amande symétrique. J'ai beau battre les taillis, les roselières et les saulaies, où il est censé se reposer en attendant la nuit. La rencontre est rare avec le petit cervidé. Elle s'effectue toujours dans la peur. Près de l'ancienne ferme où j'habite se tient mon étrange poulailler. Plus qu'une construction, il semble une alcôve de la terre, encastrée dans la forêt, né de la couvée des mousses, des ronces et du lierre. Je reprends. Non, vraiment, c'est trop petit. Donc, plus qu'une construction, il semble une alcôve de la terre, encastrée dans la forêt, né de la couvée des mousses, des ronces et du lierre. Les dernières poules vieillissantes y sont mortes et j'en laissais ouverte la porte d'un enclos dont le sol accueillait la renaissance des plantes et les grivelures du soleil. Un jour que je frôlais cette enclave raturée de moucherons au vol pendulaire, advint une explosion. Un chevreuil y était entré. Un grand mâle à six pointes, pesant bien une quinzaine de kilos. Et dans son affolement, s'y trouvait piégé. Il n'en visualisait plus la sortie et se jetait contre le grillage au risque de se blesser. Il était pris dans une nasse mentale dont il avait refermé l'issue. et ces assauts visaient à affaler une vieille clôture qui, de toute sa longueur, résistait. Le noir de ses yeux était traversé de panique. Sa livrée rousse crépitait comme une hystérisation du lieu. Je rejoignis l'extrémité opposée à la porte et il s'envola dans l'invisible. Une autre fois, je me retrouvais par hasard au milieu d'un groupe de chasseurs qui tenaient l'affût à un carrefour de lisière. C'est alors, comme sorti d'un fantasme, qu'une chevrette adulte déboula parmi nous, fuyant pour sa vie. Elle traversa un champ dans un parcours de cibles interminables, propulsée par des bonds prodigieux, au sommet desquels elle se cabrait et semblait s'immobiliser. Le dos se creusait quand se repliait le ressort des jambes. Le danger était signalé par l'affichage de sa queue blanche. Elle n'avait eu la vie sauve que grâce à ma présence dans la ligne de tir. Là encore, la bête s'était évaporée vers ce qu'il lui restait de nature et, fait remarquable, les hommes s'étaient séparés sans acrimonie. On va peut-être s'arrêter là. Enfin, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Et est-ce que je peux laisser là le temps d'une question ou deux, peut-être? Oui, hein, si vous avez question, observation, enfin quoi que ce soit. Et donc, sinon, bon, oui. Oui. Celui-là, c'est un livre. En fait, c'est un livre qui s'appelle Rue de Mercure, qui est un livre sur les grandes villes américaines. Puis j'ai écrit une trilogie, puisque j'ai vécu 18 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc une trilogie sur les grandes villes du Canada et des États-Unis, et qui est un livre qui parle surtout des villes. Et là, j'étais sorti de Vancouver pour aller vers l'île de Vancouver, donc c'est le seul texte, un des rares textes un petit peu bucolique, si j'ose dire. Le reste étant très urbain, et d'ailleurs, je dois dire, extrêmement noir. Hein. C'est un livre d'une grande violence qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Donc, et voilà. Mais c'est le livre dont je suis le plus fier. Parce que j'ai eu le courage de le publier et j'ai mis 20 ans à le faire parce que j'avais peur, en fait, de révéler ce que je révèle dedans. Ouais. Alors, c'est dans Écrit de nature numéro 3. Et je l'ai écrit au large de Miquelon, celui-là. Hein? Donc, en revenant par le bateau. Hein? Oui. Et puis, il y avait des fous de bassin entre Miquelon et Terre-Neuve. Oui. Donc, je les voyais piquer. Et on m'a dit après, d'ailleurs, qu'il y avait une ambiguïté dans mon texte parce que je fais comme si le fou de bassin piquait sur les poissons directement, alors qu'on sait aujourd'hui, grâce à la photographie, qu'il pique à côté. Et qui pique, parce que s'il piquait directement sur le poisson, il se casserait le bec, tellement le choc est violent. Donc il pique à côté et il attrape le poisson en remontant. Il se retourne en remontant et il l'attrape avec le bec en remontant. Parce que là, il freine, ça freine forcément. Donc, et autrement, c'est pareil pour le faucon pèlerin. Il passe en dessous de sa proie, puis il l'attrape en remontant avec ses serres. Autrement, il se casserait les pattes. Ouais. Voilà. Donc. Bon, j'espère que ça fait aimer un peu la nature, tout ça. Merci. Bon, nature nomade.
Merci, on te retrouve ce soir. Il reste encore un tout petit peu de place. On a pu mettre quelques chaises. Donc ce soir, à ta rencontre, à ton côté, autour des petits graviers de Saint-Pierre-et-Miquelon, en présence également
de Laurent
Rodrigo, ici présent. Et donc, il y a quelques ouvrages qui sont aussi présents ici, tes écrits de nature.
Oui.
Et puis la Bretagne par nature. C'est marrant parce que je ne connaissais pas Alexis. Tu as travaillé avec des personnes qui sont venues à Nature Nomade, comme Emmanuel Berthier également. Donc voilà, merci à toi. Et puis on te retrouve ce soir. Mais là, s'il y a des personnes qui sont intéressées,
oui, ben je vais y aller.
Quelques livres.
D'accord. Merci à vous d'être venus, en tout cas.
Merci.